C'est un très beau prénom quant à moi. Et puis, Leïka, que Dieu la bénisse, elle aussi. Bonjour Jimmy, Dieu te bénisse. Ok, alors on va débuter, on va prier et après ça on va aller pour l'enseignement du jour. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce temps que tu nous donnes et pour ce début de semaine que tu nous accordes. Cette nuit, Seigneur, tu nous as permis de nous reposer, tu nous as renouvelé ta grâce, tu as renouvelé la vie en nous, et tu nous permets ce matin de prendre un moment pour plonger nos regards dans ta parole. Et nous te demandons, Seigneur, de nous parler, de nous instruire. Tu vois, Seigneur, combien le message de cette semaine est important. Quant à la préparation que tu nous demandes pour être l'Église que tu veux que l'on soit, alors nous prions, Seigneur, que tu ouvres notre entendement, que tu ouvres notre pensée, afin de bien saisir ton cœur, de bien saisir ta pensée. Nous faisons, Seigneur, obstacle à toute pensée de la part de l'ennemi, à tout ce qui voudrait venir bloquer ton instruction. Et nous te demandons, Seigneur, de travailler nos cœurs, notre âme, notre esprit, afin que cette parole que tu implanteras en nous puisse croître sous l'onction de ton esprit, et qu'elle puisse croître jusqu'à porter un fruit qui t'est réellement et véritablement agréable jusque dans l'éternité. Alors aujourd'hui, je bénis ma sœur, quel que soit l'endroit où elle se trouve, je bénis mon frère, où qu'il soit. Ici même à Montréal, ailleurs au Québec, ou même plus loin encore, nous te demandons que ta grâce, ta miséricorde, ton onction nous soient accordées. Et qu'en toute chose, que toute la gloire et l'honneur te reviennent à toi, et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Alors, comme je le disais tout à l'heure, cette semaine, on entreprend une nouvelle thématique, un nouveau verset qui nous suivra. Et que nous étudierons tout au long de cette semaine, ça se trouve dans 1er Pierre au chapitre 2, c'est le verset 9. Aujourd'hui, je vais lire un peu avant, un peu après, tout simplement pour garder ce verset-là dans un contexte adéquat. Mais tout au long de cette semaine, on va diviser ce verset 9 pour l'étudier comme on en a pris l'habitude maintenant, partie par partie, s'assurer qu'on saisit bien ce qui est dit. Et s'assurer que non seulement on comprend, mais on permet aussi à cette parole de prendre le temps nécessaire pour se développer en nous et pour croître en chacun d'entre nous. Alors, ouvrons nos Bibles dans 1 Pierre, le chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2. Et on va lire du verset 7 au verset 10. Et par la suite, je reprendrai le verset 9, tout simplement pour que ça s'incruste bien dans nos pensées. Alors le verset 7 nous dit, Son honneur se montre donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissent est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant est le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Et je reprends donc pour vous le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Je répète une dernière fois. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et la partie qu'on étudie aujourd'hui, c'est vous, au contraire, vous êtes une race élue. Ce verset-là rentre dans un contexte où Pierre est en train de faire une distinction entre les gens du monde et le peuple de Dieu. Il demande aux gens de voir qu'il y a une différence entre la vie de celui qui est éloigné de Dieu et la vie du peuple de Dieu. Et il va dire que cette vie-là est même nouvelle parce que maintenant vous êtes un peuple alors qu'avant vous ne l'étiez pas. Maintenant vous avez été recouvert et béni par la miséricorde de Dieu alors qu'avant vous ne l'étiez pas. Et dans cette pensée-là, Pierre est en train de dire que les choses effectivement dans notre vie sont nouvelles. Et il va cataloguer, caractériser, décrire le peuple de Dieu, la famille de Dieu, le corps de Christ, comme étant plusieurs choses. Une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Et aujourd'hui, c'est la race élue que nous allons étudier. Et vous allez voir que ça va probablement venir secouer des choses ou bousculer des choses. On verra comment l'esprit nous conduit, si on rentre dans des détails qui sont plus sensibles ou pas. Mais on va simplement faire confiance à Dieu qu'il a une parole pour nous aujourd'hui. Alors, race élue. Race, c'est le terme grec génos, G-E-N-O-S, G-E-N-O-S, qu'on retrouve 21 fois dans le Nouveau Testament. Donc, ce mot grec apparaît 21 fois dans la parole de Dieu. La race élue, élue, c'est le terme ekletos, E-K-L-E-T-O-S, E-K-L-E-T-O-S, qu'on retrouve quant à lui 23 fois dans le Nouveau Testament. Le terme génos va être souvent mentionné comme étant un lien de parenté, une famille, une tribu. Ça va être associé à une descendance, à une nationalité. Ça va parler de quelque chose ou de deux individus qui sont en fait d'une même et identique nature. Et vont parler de deux choses qui sont du même genre. Ekletos, c'est un mot qui est composé par deux racines grecques. La première, ek, ek, qui veut dire sortir, venir de, sortir dehors, ou aller hors d'une chose. Et letos est un mot qui origine d'un autre terme grec qu'on a déjà étudié, aletheia. Donc, l'éthos vient de aletheia, qui veut dire vrai et véridique. Quelque chose qui a été choisi, désigné, sélectionné. Quelque chose qui est du meilleur genre. Quelque chose qui tire une essence qui est véritable et véridique. Quelque chose qui est excellent, vrai. Alors ici, on nous parle que nous sommes un génos élu. Un génos élu et un génos véritable. Nous sommes une race élue. Ça veut dire qu'à un moment donné, Dieu a regardé l'ensemble de l'humanité et il s'est dit, je vais choisir des hommes, des femmes qui vont être considérés comme étant une race que moi, j'aurais choisi. Je vais me choisir à moi une race. Et on s'entend que, bien que le peuple d'Israël existait déjà, ici Pierre ne parle plus des Juifs. Ici Pierre ne parle plus de cette descendance naturelle, de cette descendance physique d'Abraham. On ne parle plus de la nationalité ou j'aime pas le mot, mais on va l'utiliser parce que c'est le terme que Louis II va utiliser, de la race juive. Ici, Pierre s'adresse de cette nouvelle race, s'adresse à propos de cette nouvelle famille qu'est le corps de Christ, qu'est l'Église. Et Jésus nous dit effectivement que ce n'est pas nous qui nous sommes approchés de lui, mais que c'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui nous a élus, c'est lui qui nous a attirés à lui, et c'est lui qui fait dans ce verset-ci que nous sommes effectivement une race élue. Jésus a décidé, notre Dieu, notre Seigneur, a décidé de se créer une race, un peuple, dans lequel nous, en tant que croyants, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons notre place et nous faisons partie à part intégrale. La deuxième pensée, c'est que nous sommes, oui, un génos élu, mais aussi un génos véritable. On se rappelle, l'éthos vient de aletheia, qui veut dire vrai, véridique. Ça veut dire que les autres sont faux. Si effectivement cette race qui est élue, qui est choisie par Dieu, qui est établie par Dieu, est aussi la vraie race, ça veut dire que les autres ont des lacunes, que les autres ne sont pas les vrais et les véritables. Et ici, c'est une notion importante de comprendre que notre façon de voir ce que nous sommes devrait changer. Très souvent, on va se présenter, et je crois que c'est naturel chez nous parce que la société est bâtie comme ça, on va se présenter comme étant, ben Florent, il est français. Bon, quand je suis en France, on me dit que je suis canadien ou québécois. Mais lorsque je suis ici, ben on va me dire, mais Florent est né en France, donc il est français. On va dire que Daphné, bien qu'elle soit née au Québec, elle est 100% québécoise. On va dire, mais parce que ses parents sont d'origine haïtienne, donc elle est haïtienne. En contrepartie, parce que mon père est quand même 100% italien né en France, ses deux parents étaient d'origine italienne, donc moi, logiquement, je suis quelque chose comme un mélange entre la France et l'Italie. Et très régulièrement, on va se présenter comme ça. On a une congrégation de notre côté de l'Atlantique, et ici à Montréal, on a une congrégation que l'on décrit comme multi-ethnique. Donc, une congrégation qui accueille des gens qui viennent de plusieurs nations, de plusieurs origines ethniques, dans les mots qui seraient utilisés, mais de façon scientifique, ce mot-là ne devrait pas s'appliquer au genre humain, mais on va dire qu'on est des gens qui viennent de plusieurs races, parce qu'on va avoir des Caucasiens, on va avoir des Asiatiques, on va avoir des gens qui ont des origines un peu plus amérindiennes, on va avoir des Afro-Antillais. Donc, l'ensemble de cette communauté, on va la décrire très régulièrement par l'origine ici-bas sur Terre. Mais ici, Pierre est en train de dire, vous formez maintenant quelque chose de nouveau. Vous n'êtes plus dans les paradigmes d'autrefois où nous étions descendants strictement d'Abraham, et ça excluait les autres. Ici, il est en train d'inclure tous ceux qui ne pouvaient pas faire partie de la descendance naturelle et physique d'Abraham, et il va dire, vous êtes maintenant un nouveau génos, vous êtes un génos qui est élu, qui a été choisi et écrit et élu par Dieu, et de surcroît à cela, celui-ci est le véritable, le véridique génos. Ça veut dire que, au-delà de ce que ma nature humaine dit de moi, au-delà de ce que mes origines de naissance disent de moi, au-delà de ce que mon ADN physique dit de moi, Pierre va dire, maintenant nous sommes une nouvelle race, et cette nouvelle race vient du fait que notre Père est le Père céleste et que nous sommes enfants de Dieu. Alors, il est en train de dire que cette nature spirituelle, ce génos spirituel, devrait primer sur notre génos physique. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que quand vous ramenez le génos à ce qui est physique, vous ramenez ça pour les plus spirituels, à Abraham, pour les juifs, à Abraham, mais pour l'ensemble du genre humain, vous le ramenez à Adam. Et tout ce qui a découlé d'Adam, malheureusement à cause de son péché, a été terni, a été abîmé, a été sali, et est maintenant incomparable par rapport à ce que Dieu aspire de nous. Je veux dire, il ne peut pas se comparer avec la nature de Christ qui est pure, qui est sainte, qui est merveilleuse, qui est sans tache, sans iniquité, qui est parfaitement parfaite. Alors ici, il nous faut être capable de délaisser notre nature d'Adam et de comprendre que nous ne sommes plus d'Adam. Physiquement, je découle d'Adam, mais ma vraie nature maintenant devrait être de Christ. Mon identité devrait être de Christ. Ma nature devrait être de Christ et non pas d'Adam. Et lorsque je ramène constamment les choses par rapport à je suis français, je suis canadien, je suis bulgare, je suis haïtien, je suis burkinabé, je suis salvadorien, je suis chilien, je suis colombien, je suis toujours en train de ramener ça non pas à Christ, mais de ramener ça à Adam, le premier homme qui a péché et qui a fait que l'ensemble de l'humanité par la suite l'a suivi dans cette nature pécheresse. Nous ne sommes plus de cette terre, nous sommes de la nature et de la descendance de Christ. Pierre ici est en train de dire, quand Christ est mort et qu'il a suscité l'Église, il a créé une nouvelle nation, et cette nation n'est pas le peuple juif, mais cette nation est l'Église. Et il dit, nous faisons partie de l'Église. Et faisant partie de l'Église, le génos doit changer. La race devient nouvelle, la race prend une autre tournure. Alors il y a des paradigmes comme ça qu'il nous faut changer. Si vous voulez, je vais vous inviter à ouvrir dans Galates au chapitre 3. Galates chapitre 3, le verset 26 à 29. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc ici, on est en train de dire, on n'est plus fils d'Adam. On n'est plus des descendants d'Adam. On descend maintenant de Dieu. Vous êtes tous des fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier de la promesse. La postérité, ici on s'entend, la postérité d'Abraham, la postérité spirituelle, où Abraham avait reçu comme promesse que la postérité qui descendrait de lui serait comme le sable sur la plage, qui est innombrable. Et cette postérité-là, j'en fais partie. Mais il dit de moi que je ne suis plus juif. Il dit de moi que je ne suis plus grec. Il dit de moi que je ne suis plus libre ou esclave. Il dit de moi que maintenant, j'ai revêtu Christ. Donc ma nature, mon génos, découle maintenant de Christ. Et il faut arrêter de séparer ce qui est naturel du spirituel. Il faut arrêter de faire, d'encadrer les choses comme voici dans le monde spirituel je suis ceci, mais voici dans le monde physique je suis telle autre chose. À un moment donné, il faut se dire que effectivement je vais passer l'éternité avec Christ, et pour l'éternité, quelles sont les choses qui régularisent ou qui règlent ou qui réglementent l'éternité, et ce qui réglemente l'éternité, ce n'est pas ma nature d'ici-bas. Ce qui réglemente l'éternité, ce n'est pas que je sois juif, que je sois grec, que je suis français, que je sois canadien, que je sois belge, que je sois ceci ou que je sois cela. Ce qui réglemente et ce qui régule ou régularise ou ce qui gère l'éternité, c'est est-ce que le sang de Jésus coule à travers moi? Est-ce que le sang de Jésus coule en moi? Est-ce que ma nature maintenant est la nature de Christ, oui ou non? Dans le ciel, il n'y a ni juif ni grec. Dans le peuple de Dieu, il ne doit y avoir ni juif ni grec. Et si moi, celui qui vit en moi, est effectivement Christ, ben cette nature doit prendre préséance sur l'ensemble des autres critères qui sont strictement de cette terre. Deuxième un passage où je vais vous inviter à aller, dans 2 Corinthiens au chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 16 et 17, je vais vous le lire dans la version Louis II, mais après ça, je vais vous donner une alternative dans la version second 21. Donc, 2 Corinthiens 5, à partir du verset 16, « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. » Dans la version Louis II, le connaître ici, c'est le terme percevoir. Nous ne percevons plus les gens selon la chair, la version Louis II va nous dire. Alors, il est en train de dire, nous ne regardons plus les gens selon les choses humaines. Nous ne percevons plus les gens selon les choses humaines. Nous les percevons sous le régime de Christ. Et il va dire clairement, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Donc, devant Christ, nous sommes supposés être effectivement une nouvelle créature. Les notions d'autrefois ont changé, ont été abandonnées. Nos paradigmes doivent être abandonnés. Notre façon de regarder l'homme doit changer. Notre seul critère, c'est ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus et qui sont enfants de Dieu, et ceux qui n'ont pas reçu Jésus, qui n'ont pas été rachetés, qui n'ont pas été sauvés. Il y a simplement ces deux groupes-là dans l'humanité. Ceux qui sont enfants de Dieu et ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Voyez, une des raisons pour lesquelles je crois qu'on passe à côté de ce changement de paradigme, de ce changement de façon de voir et de façon de penser, c'est parce que on reste avec le regard sur cette terre. Et on n'a pas déjà notre pensée dans l'éternité. Ecclésiaste au chapitre 3, le verset 11, va nous dire, « Il a fait toutes choses belles en son temps. Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. » Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité devrait déjà nous habiter. Malheureusement, on regarde trop sur notre vie physique, sur notre temps ici-bas sur terre, alors que nous sommes appelés à maintenir nos regards, notre pensée dans l'éternité. Et dans cette éternité, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a plus juif, il n'y a plus grec, il n'y a plus français, il n'y a plus québécois, il n'y a plus canadien, il n'y a plus américain, il n'y a plus juif, il n'y a plus grec. Ça laisse de côté tout ce qui était d'ici-bas pour quelque chose qui est pur, saint et qui est là-haut. Le problème, c'est que lorsque je regarde ici-bas, j'empêche ma pensée d'être affectée, d'être influencée et d'être transformée par Christ. Et cette pensée, si on était déjà dans l'éternité, voici ce qu'on serait capable de voir. Si on avait déjà cette pensée qui était axée dans l'éternité, voici ce qu'on verrait dans Apocalypse au chapitre 5, le verset 9. Mais je lis pour vous à partir du verset 8. Apocalypse, chapitre 5, je lis à partir du verset 8. « Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants, les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe, des coupes d'or remplies de parfums, qui étaient les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne d'en prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Il est en train de dire, l'agneau, Jésus, par son sang, a racheté a fait sienne une multitude d'hommes de différents groupes, de différentes nationalités, de différentes origines ethniques, pour faire d'eux un seul royaume, le royaume de Dieu. Si j'avais la pensée dans l'éternité, ma notion, ma conception de l'homme serait changée. Ma conception de l'homme ne verrait plus ni à la couleur, ni à la langue, ni à l'accent, ni aux coutumes d'ici-bas, ni à la génétique humaine, mais penserait dans le fait, voici une seule et unique race, la race de peuple élu de Dieu. Apocalypse 7, le verset 9. Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains et criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Il est en train de dire ici que l'ensemble des rachetés originaient de plusieurs endroits de cette terre-ci, de cette époque-ci humaine, mais que l'ensemble du peuple était maintenant réuni pour louer Dieu. Je dois avoir ma pensée dans l'éternité. Je dois regarder la race humaine comme Dieu l'aperçoit. Sont-ils sauvés ou ne sont-ils pas sauvés? Dieu ne regarde pas ta couleur. Dieu ne regarde pas ta langue. Dieu ne regarde pas tes origines génétiques humaines. Dieu ne regarde pas ton groupe ethnique. Dieu ne regarde pas tes coutumes, tes us, tes pratiques d'ici-bas. Dieu, la seule chose qu'il regarde, c'est est-ce que le sang de l'agneau t'a sauvé, oui ou non? Et pour nous qui sommes enfants de Dieu, ça devrait être notre façon de contempler l'humanité. Est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, j'oublie tout ce qui est de cette terre? J'oublie tout ce qui est de cette terre, oui, lorsque cette chose-là en devient un orgueil et une fierté. Je n'ai pas à être fier d'être français. Je suis simplement né là-bas. Je n'ai rien fait pour ça. Mais je peux être fier d'être enfant de Dieu parce que j'ai accepté, j'ai compris le salut de Christ pour moi et j'ai pris cette décision bien séante et j'ai pris cette décision sage. Alors je peux être fier d'avoir pris cette décision de faire de moi un enfant de Dieu, de faire de ma vie une partie prenante du peuple de Dieu. Mais les choses d'ici-bas sont déjà passées. L'éternité existe déjà. La Bible dit que nous sommes déjà assis dans la gloire avec Dieu. Ça veut dire que toi et moi, notre pensée ne devrait plus être d'ici-bas. Mais le monde autour de nous est ce qu'il est. Et le monde autour de nous base très souvent ses choix, ses préférences sur des groupes ethniques, sur des couleurs, sur des langues. Est-ce que nous devons permettre cela? Non. Et voilà pourquoi il y a quelques semaines, je vous ai dit, l'Église doit avoir son rôle à jouer dans le phénomène actuel ou dans le constat actuel où tout le monde se lève contre le racisme. L'Église doit avoir son jeu parce que le racisme, c'est quoi? Le racisme, c'est brimer notre prochain et nous n'avons pas le droit de laisser le malheureux être opprimé, de laisser le faible être opprimé. Nous n'avons pas le droit de laisser l'étranger être opprimé. La Bible nous enseigne en plusieurs endroits à prendre soin de la veuve, de l'orphelin et de l'étranger. De l'étranger. Pourquoi? Parce que même dans le temps biblique, même dans le temps de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, l'étranger était malmené. Et aujourd'hui, si je suis enfant de Dieu et je prends sa parole comme étant un guide et comme étant une base de réflexion, ben je dois me manifester contre toute oppression faite à quelqu'un de par ses origines ethniques, de par sa race génétique humaine. Je dois me lever contre ça. Je me lève d'autant plus contre ça que je sais que pour l'éternité, ce critère-là ne compte pas. Ça veut dire quoi pour toi et pour moi? Ça veut dire qu'effectivement, je dois me repentir de bien des attitudes incorrectes que j'ai eues. Ça veut dire que toi et moi, effectivement, on a probablement à aller voir le Seigneur puis à dire, Seigneur, pardon d'avoir classé les gens selon des préférences nationales, selon des préférences et des origines quelconques. Pardon, Seigneur, d'avoir cataloguer les gens selon un catalogue que toi tu n'utilises pas parce que devant toi il n'y a effectivement plus juif ni grec ni gentil ni juif pur. Alors je dois retourner vers Dieu et dire pardon. Je dois aussi décider de changer des choses dans ma façon de faire, dans ma façon de parler, dans ma façon de penser. Je dois exclure de ma tête par rapport à l'ensemble de l'humanité de classer avec des groupes. Je vais me risquer à une chose. J'ai déjà entendu un enfant venir me voir en me disant, mes parents m'ont dit que si on devait se marier de façon interethnique, on devait avoir un mariage interracial, il fallait s'assurer que la personne qu'on allait marier puisse améliorer la race. Regarde, sans Christ, il n'y a pas moyen d'améliorer quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas parce que tu irais choisir quelqu'un de tel ou tel pays, de telle ou telle nationalité, de telle ou telle ethnie, que tu vas améliorer quoi que ce soit. Cette personne-là a été tachée par le péché. Cette personne-là, à moins que Christ ne vienne habiter en elle et vivre en elle, ne peut être améliorée. Et toi-même, à moins que Christ n'habite en toi, tu ne peux être amélioré et tu n'apportes rien de bon à cette génération-ci. La seule chose de bon que tu vas apporter, c'est lorsque le sang de Christ va te purifier et lorsque ta nature pécheresse a été mise de côté pour que la nature de Christ vive à travers toi. Et cette nature de Christ ne fait acception de personne. Et cette nature de Christ ne privilégie personne. Cette nature de Christ met tout le monde sur un même pied. Cette nature de Christ fait en sorte que je regarde mon frère qui n'est pas de la même couleur que moi, que je regarde mon prochain qui n'est pas de la même langue que moi, que je regarde mon adversaire qui n'est pas du même pays que moi, et que je sais que moi, le gracié que je suis par le sang et par la mort de Jésus, j'ai à faire en sorte que cette personne vienne à la connaissance de Christ. Parce que pour l'éternité, il est appelé à vivre avec moi. Et devant Christ, il n'y a plus juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni libre, ni esclave. Alors je sais que c'est un paradigme important qu'on abat ce matin. Je vis ici-bas. J'étais d'ici-bas, mais je ne suis plus d'ici-bas. Je vis dans ce monde, mais je ne suis plus de ce monde. Tu vis dans ce monde, mais tu n'es plus de ce monde. Tu es déjà dans l'éternité. Et dans cette éternité, devant Christ, le paradigme des nations, le paradigme des races n'existe plus. Le seul critère, as-tu été racheté par le sang de Jésus, oui ou non? Le seul critère, es-tu effectivement un enfant de Dieu, oui ou non? C'est la seule chose qui compte maintenant. Alors on va prier. Seigneur, nous sommes mauvais. Seigneur, notre nature est mauvaise. Seigneur, non seulement avons-nous hérité de cette nature pécheresse lors de la faute initiale d'Adam et Ève, mais par nous-mêmes aussi, Seigneur, nous avons aimé le péché, nous avons pratiqué le péché et nous avons été condamnés à cause de notre péché. Mais tu nous enseignes, Seigneur, qu'étant venu à toi, tu transformes nos vies et tu nous dis, Seigneur, de laisser les choses du passé derrière. Et les choses du passé sont ces choses d'ici-bas sur terre. Tu nous as appelés à l'éternité et la pensée de l'éternité devrait déjà nous habiter. nous devrions regarder l'humanité avec ton regard. Nous devrions concevoir l'éternité avec ton regard. Nous devrions concevoir l'humanité avec ton regard, ô Dieu. Alors Seigneur, change mes yeux. Que je ne vois plus, Seigneur, selon l'origine, que je ne vois plus selon la couleur, que je ne vois plus selon la langue, mais que je ne puisse voir qu'à travers la mort de Jésus pour le pécheur. Mon prochain a-t-il ou non été sauvé? Mon frère est-il ou non enfant de Dieu? Ai-je ou non été racheté? Et si j'ai été racheté, je ne suis plus de ce monde. Et les choses de ce monde sont rendues futiles. Alors je prie, Seigneur, que tu parles à tes enfants, que tu parles même à moi-même, ô Dieu. Tu sais ce qu'il y a encore à changer. Tu vois, Seigneur, les choses qui, dans la question des différenciations, ne te glorifient pas. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, d'avoir privilégié. Pardon d'avoir fait exception. Pardon d'avoir regardé à cette nature pécheresse, faillible, incorrecte, au lieu de magnifier la nature rachetée, amenée à l'excellence et parfaite de Christ en nous. Change-nous, transforme-nous. Et permets-nous, Seigneur, de nous élever encore et toujours contre l'injustice. Contre cette injustice qui est faite avec des notions de cette terre. De nous lever contre la méchanceté qui est faite avec des notions de cette terre. Avec des critères d'exclusion de cette terre. Que nous puissions prendre soin de la veuve, de l'orphelin, de l'indigent et de l'étranger. Merci Seigneur de parler au cœur. Nous t'avons prié en ton nom Jésus. Amen. Alors, j'ai eu un petit problème technique sur mon écran, tout est noir, donc je ne vois plus rien de mon côté, je vois quand même sur le cellulaire. Donc, je vais essayer de saluer quelques personnes qui se sont joints à nous, plutôt. Je pense que la dernière personne, c'était Ramon. Bonjour à Denise de Montagne. Bonjour à Gabi, mon ami Gabi, et son mari, le chef Régis. Je vous embrasse tous trois avec la petite. C'est tout ce que je peux voir ce matin. Donc, on se retrouve demain matin. J'espère que vous avez été ébranlé par la parole de ce matin, que vous avez été secoué. C'est une bonne chose quand la parole de Dieu nous secoue. C'est une bonne chose quand le Seigneur ramène les choses dans son regard et dans sa pensée à lui. Alors, prions que Dieu nous parle, prions que Dieu nous façonne, que Dieu nous transforme, et prions pour prendre le temps qui reste devant nous, pour être vraiment l'Église telle qu'il désire que nous soyons. Une église qui ne fait exception de personne. Une église qui a compris qu'il n'y a plus maintenant ni juif ni grec, mais simplement les rachetés de Christ. Alors que Dieu vous bénisse, bonne journée à tous. Et on rappelle ce soir, étude biblique avec le pasteur André à partir de 19h sur le livre de l'Apocalypse. Donc 19h ce soir avec le pasteur André Bernard sur les plateformes habituelles Facebook, page web de l'église, plateforme Zoom de l'église aussi. Donc soyons là, 19h. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous.